Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Une affaire criminelle de 2011, aujourd'hui, qui a porté à être une ferme dans un village à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux, qui s'appelle Cavignac. Une histoire qui met en scène le trio assez classique, le mari, la femme, l'amant, et qui pose cette question éternelle, pourquoi diable tuer son mari alors qu'il est si simple de divorcer? Pour le débrief tout à l'heure, je serai avec l'avocate générale qui a assisté aux deux procès, Dominique Auflac. Bonjour madame.
Bonjour monsieur Ondelatte, ravi de vous avoir en ligne.
Ravi aussi, je signale la sortie de votre dernier livre qui est un roman aux éditions du Bordelot, La cabane en bois. A tout à l'heure, madame Auflac, j'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. La réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je vous emmène chez les Boutins, dans une ferme, les Renardières, à Cavignac, à 40 km de Bordeaux, le 30 octobre 2011, en fin d'après-midi. Le fils de la maison, Hervé, 20 ans, est en train de faire la sieste. Et il se réveille d'un coup. Un flash, une prémonition, l'intuition qu'il est arrivé quelque chose à son père. Son père est à la chasse, il est certain qu'il y a un problème. Je sais, c'est étrange, et vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais c'est comme ça qu'il raconte les choses. Il sent que son père est en difficulté. Hervé sort de sa chambre et il va voir sa mère dans la cuisine. Maman ? Papa est rentré ? Non ? C'est pas normal, maman. Il y a un problème. Et donc, il essaye de l'appeler sur son portable. Pas de réponse. Et pour cause, son père est parti sans son portable. Et l'inquiétude monte lentement. Il est 6h30 du soir, on est en octobre, la nuit est tombée, et c'est vrai que Cyril devrait être rentré. La mère finit par dire
« Tu as raison, Hervé. Je vais appeler les gendarmes. »
Les gendarmes de Cavignac arrivent à la ferme avec un chien. Hervé voudrait bien les accompagner.
Non, jeune homme, ça n'est pas possible. Mais ne vous inquiétez pas, hein. On va faire le nécessaire.
Les gendarmes sont de retour à 23h. Bredouille.
Désolé, messieurs, dames. Nous ne l'avons pas trouvé. À cette heure-ci, ça sert plus à rien de chercher. On reprendra les recherches demain à l'aube. Et si vous avez des nouvelles, bien sûr, vous nous prévenez, hein.
Le lendemain matin, avant l'aube, Nathalie, la femme de Cyril, n'attend pas que les recherches reprennent. Dès le lever du jour, elle s'enfonce dans les bois à la recherche de son mari. Elle sait à peu près dans quel secteur il chasse. Elle connaît ses habitudes. Allô ?
Allô, c'est Nathalie Boutin. Je viens de retrouver le corps de mon mari. Il est allongé par terre. Il est couvert de sang.
Ensuite, elle prévient son fils, Hervé, qui arrive sur place avec les pompiers. Quand il voit le corps de son père face contre terre sur le chemin, il se jette dessus. Il veut prendre son pouls, le pauvre, mais le corps est déjà froid. Son père est mort. Il a été abattu. Sans doute à coup de carabine de chasse, les gendarmes comptent les impacts dans le dos. 4. Ça n'est pas un accident de chasse. 4 cartouches. C'est une exécution. Les gendarmes de la scientifique, les TIC, arrivent sur place et juste après, le médecin légiste. Ses premières constatations sont édifiantes.
Vous voyez là, les 3 premiers orifices sont larges. Hein, ça veut dire que les 3 premiers coups de feu sont tirés de loin. Je dirais 4 à 5 mètres. En revanche, regardez là, le 4e au niveau de la tête. Il a été tiré de beaucoup plus près.
exécution, je vous dis. D'abord 3 coups de feu pour le neutraliser, et le 4e dans la tête pour s'assurer qu'il est mort. C'est un assassinat. Les tics, bien sûr, se mettent à chercher les douilles. Ils ratissent les alentours, rien. Le tueur les a ramassés. C'est dommage, parce que les cartouches de chasse portent souvent la trace caractéristique du fusil qui les a tirés. Le tueur le savait, sans doute. C'est pour ça qu'il les a ramassés.
Une dernière chose, docteur. Vous avez une idée de l'heure de la mort ?
Oui. Oui, je dirais entre 14h et 16h hier après-midi.
Dans la famille Boutin, je vous ai déjà parlé d'Hervé, le fils aîné qui a eu cette étrange prémonition, mais il n'est pas le seul enfant à pleurer ce matin la mort de son père. Ils sont 2. Cyril et sa femme Nathalie se connaissent depuis l'adolescence. Ils se sont mariés à 18 ans. La ferme des Renardières appartient aux parents de Nathalie. Ce sont eux, Cyril et Nathalie, qui l'ont retapé. Ce sont des gens modestes. Cyril Boutin, dont on vient de retrouver le corps dans ce bois de Cavignac, était laveur de citernes. Un brave type, disent les gens du village. Généreux, pas d'ennemis. Mais qui a pu tuer ce garçon de 39 ans, sans histoire, sans fortune, et pourquoi ? Dès la découverte du cadavre, les gendarmes entendent Hervé, le fils si clairvoyant.
« Votre père, jeune homme, avait des ennemis ?»«
Écoutez, je pense à quelque chose. Mon père a eu une altercation avec un gitan il y a quelques jours. »«
Ah bon ? Dans quelles circonstances ? Racontez-moi ça. »
Mais le type est venu à la ferme pour voir s'il n'y avait pas de la ferraille. Mon père lui a dit que non. Il a insisté, il lui a dit de partir. Il l'a mis dehors, quoi. L'autre était en colère et il lui a dit « je me vengerai ».
Très intéressant. C'est une piste. Le gitan n'est pas dur à retrouver, les gendarmes ont déjà eu affaire à lui. Le gars habite une caravane. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la caravane ? Un fusil de chasse du même calibre. Le même calibre que celui qui a servi à tuer Cyril Boutin. Le bonhomme est immédiatement placé en garde à vue.
Bien, monsieur. On nous dit que vous avez eu récemment une altercation avec monsieur Boutin à la ferme des Renardières. Vous confirmez ?
Une altercation ? Pas exagéré, hein ? D'abord, c'est lui qui était agressif. Quand je suis retourné à ma voiture, il m'a poursuivi en me disant « on se reverra ». Je lui ai dit « ouais, si tu veux, on se reverra ».
D'après son fils, vous lui auriez dit « je me vengerai ». Vous confirmez ?
C'était des paroles en l'air.
Des paroles en l'air, peut-être, mais où étiez-vous, monsieur, l'après-midi du 30 ?
Bon, ben, voyons, j'essaie de me souvenir. Ben, j'ai fait une sieste, environ 1h30. Et ensuite, j'ai pas quitté le terrain de mon oncle. Je suis pour rien dans la mort de ce monsieur, moi.
Le terrain de votre oncle ?
Ben, le campement où c'est que j'ai ma caravane, celle où vous m'avez trouvé.
Et le fusil qu'on retrouve chez vous, monsieur, vous vous en servez ?
Oui, je m'en sers, mais des fois on s'amuse à tirer.
Vous allez chasser avec ?
Non, je l'utilise sur le terrain de mon oncle.
Vérifions. Par exemple, en localisant son téléphone portable. Est-ce que le jour du crime, il est allé dans le bois de Cavignac où a eu lieu le meurtre ? Les gendarmes se font remonter la géolocalisation de son portable. Il n'a pas bougé. Il est resté au campement. Ce que confirment d'ailleurs les autres gitans qui vivent sur le même terrain. Alors évidemment, ils peuvent mentir. Et il a pu laisser son téléphone à la caravane et aller tuer Cyril Boutin dans le bois sans son téléphone. Mais pour l'instant, les gendarmes ont plutôt tendance à le croire. Mais si ça n'est pas lui, alors qui ? Une semaine s'écoule sans aucune autre piste. Et puis un jour, la sœur de Cyril Boutin, Béatrice, déboule à la gendarmerie.
Bonjour.
Voilà, c'est urgent. Je voudrais parler au chef d'enquête qui travaille sur la mort de Cyril Boutin.
Et là, d'un coup, le portrait de ce couple modèle se fissure. La sœur vient raconter qu'entre son frère et sa femme, ça n'allait plus du tout.
Il y a un an? Ouais, à peu près un an. Mon frère m'a dit qu'il voulait divorcer. Il m'a dit que c'était fermé définitif. Il m'a dit qu'il avait beaucoup réfléchi. Il voulait quitter sa femme.
Ah ah! Changement de décor! Jusque-là, on nous parlait d'une belle famille, de gens rayonnants, heureux. On a un peu fantasmé. Et donc, on découvre la face B de la belle histoire des Boutins. 3 ans avant d'être assassiné, Cyril Boutin a eu un accident du travail. Il est tombé dans une cuve. Il s'est abîmé le dos, les disques. Il est resté handicapé, la colonne raide. Il ne pouvait plus travailler. Il touchait une pension d'invalidité. Allait nourrir une famille avec une pension d'invalidité. Donc, tension dans la famille. Le pater familias ne pouvait plus jouer pleinement son rôle. Après 17 ans de mariage, le couple se délitait. Ajoutez à cela que 4 générations cohabitent à la ferme des Renardières. Les parents de Nathalie habitent toujours là. Et Hervé, le fiston, que vous connaissez déjà, vit là avec sa compagne et leur bébé. La ferme est grande, mais ça fait beaucoup de monde, beaucoup de promiscuité, beaucoup d'occasions de s'engueuler. Et comme si ça ne suffisait pas, on apprend que quelques mois avant le meurtre, un copain de Cyril est venu s'installer dans un mobil-home au fond du jardin. Un copain. Quel genre de copain? Jean-Marc Arboin, c'est le nom de ce copain. Un gars du coin, ouvrier viticole et pompier volontaire. Un jour, il s'est séparé de sa femme. Il a vécu quelque temps chez sa mère et puis, dans le courant de l'été 2010, il a trouvé refuge chez les Boutins. C'était ça ou la rue. Et un an plus tard, en juillet 2011, il s'est installé pour de bon aux Renardières avec un mobil-home au fond du jardin. Il a posé ses valises. Est-ce que les gendarmes comprennent assez vite quand ils découvrent l'existence de ce Jean-Marc Arboin? C'est qu'il s'entendait comme larron en foire avec Cyril Boutin. En tout cas au début. Comme son couple battait de l'aile, qu'il ne pouvait plus travailler, qu'il était devenu un peu le vilain petit canard de la ferme, Cyril s'est accroché à Jean-Marc. Ils bricolaient avec lui, ils allaient à la chasse ensemble, 2 bons copains, une bouée de secours pour Cyril. Et en quelques mois, Jean-Marc est devenu un membre de la famille, un de plus. Vous commencez à entrevoir le problème. 2 coqs dans la même basse-cour. 2 coqs pour une seule poule. Ça n'est jamais bon. La sœur de Cyril Boutin, Béatrice, raconte une scène qui a lieu le lendemain de la mort de Cyril. Une scène très troublante.
J'étais chez mon frère et ma belle-sœur, dans la salle à manger des Renardières. On était évidemment tous très secoués par ce qui venait de se passer. Et là, Monsieur Arbois est entré dans la pièce. Et on aurait dit qu'il se prenait pour le chef de famille. Et puis, fallait voir comme ma belle-sœur le regardait. Elle avait de ses regards, langoureux, tout ça, quoi. Moi, je vous le dis, moi, j'ai senti qu'il y avait un truc entre eux, entre elle et ce Jean-Marc. Je vais vous dire, j'ai senti que je gênais. Allez au bout de votre pensée, madame. Je pense que c'est lui qui a tué Cyril.
Jean-Marc Arboin.
Oui. Jean-Marc Arboin.
Et là, les gendarmes se rendent compte qu'il n'y a pas que Béatrice qui pense ça. Que Jean-Marc, le bon copain de Cyril, est l'amant de Nathalie. D'autres viennent le leur dire. C'était un secret de polichinelle.
Ah! Mais moi, je l'ai vu lui caresser la cuisse, hein? Ah, moi, je les ai vus dans le champ, ils se tenaient la main. Ils se cachaient pas. Il y a que Cyril qui voyait pas, ou qui voulait pas voir. Dès que l'autre avait tourné le dos, elle le rejoignait dans son mobil-home. Hein. Moi, je pense qu'il se doutait de quelque chose, hein. Il savait bien qu'il avait les cornes. Enfin, c'est mon avis, hein.
partir de ce moment-là, les gendarmes commencent à y voir plus clair. Ils sont sur un terrain criminel assez classique. Le mari, la femme et l'amant. L'amant qui tue le mari pour filer le parfait amour avec la femme. Et donc les gendarmes de la section de recherche de Bordeaux, en charge de l'enquête, convoquent les deux tourtereaux, Nathalie Boutin et Jean-Marc Arpoint. Et à peine assise, Nathalie Boutin prend les devants.
Pour couper court à toute éventuelle chose que vous pourriez entendre, Jean-Marc n'est pas mon amant. C'est juste un ami. Ou d'ailleurs, plutôt, c'était l'ami de mon mari. Rien de plus. Nous avons plusieurs témoignages, madame, qui disent strictement l'inverse. C'est faux. On est des amis, c'est tout.
Et dans la pièce d'à côté, Jean-Marc Arpoint est sur la même ligne.
Moi, je suis avant tout un ami de Cyril. Nathalie, vous savez, elle est assez froide, hein. Elle est distante avec moi. On s'entend bien, mais ça va pas plus loin. Hein. Nous pensons, monsieur, que vous êtes lié à la mort de Cyril Boutin. Mais enfin, ça peut pas être moi. Je suis pompier volontaire. Je suis un sauveur, moi. Je suis pas un assassin. Moi, je suis là pour sauver des vies, pas pour en ôter. La vie humaine a du sens pour moi.
Ça alors ? On se serait trompé ? C'est possible, hein, vous savez que dans les petits villages, les gens fantasment. Alors les gendarmes se tournent vers le fils, Hervé. Il a 20 ans. Il a dû s'apercevoir de quelque chose. Est-ce que sa mère est la maîtresse du copain Jean-Marc ?
Ma mère avec Jean-Marc ? Non, je suis pas au courant. Je crois pas, non.
Les gens disent qu'après la mort de votre père, Jean-Marc Arpoint est venu s'installer dans la ferme.
Ouais, mais c'est moi qui lui ai proposé. Il n'allait pas rester dans son mobil-homme, il y avait de la place dans la maison. Il est venu dans la maison, c'est tout.
Le fils est-il naïf ou complice ? Jean-Marc Arpoint est bien sûr interrogé sur son emploi du temps l'après-midi du 30 octobre.
Ben, j'ai déjeuné chez les Boutins. Ensuite, vers les... 1h30, oui, 1h30, je suis parti chez ma mère. Elle habite à Blaye. Puis j'ai passé l'après-midi là-bas, jusqu'à 6h30. Vous pouvez lui demander, hein.
On lui demande. Et elle confirme. Son fils a passé toute l'après-midi chez elle. Sauf qu'elle ment. Et ça, on le sait assez vite, grâce à son téléphone portable. Ce fichu portable qui est le mouchard de nos vies. L'après-midi du crime, le portable de la maman ne borne pas du tout chez elle. Elle n'était pas chez elle. Elle ne peut pas jurer que son fils était avec elle. Jean-Marc Arpoint n'a plus d'alibi. Et puisqu'on en est à exploiter les téléphones portables des uns et des autres, l'étude de celui de Nathalie et de celui de Jean-Marc se révèle fort intéressante. Ils se sont envoyés des petits messages tous les deux. De mignons petits messages du genre « Je t'aime, je t'attends, tu es l'ange gardien des renardières. » Des amis ? Est-ce que des amis s'envoient des SMS pour se dire « Je t'aime » ? Ils ont menti. Ils sont amants. Et donc, où était Jean-Marc Arpoint l'après-midi du meurtre, puisqu'il n'était pas chez sa mère? Et là encore, on se tourne vers le portable de Jean-Marc, et on s'aperçoit qu'étrangement, il était coupé. Mieux que ça, il était coupé, et on avait retiré la carte SIM. Couper son portable, c'est une chose, ça arrive, tout le monde n'est pas pendu à son téléphone. Mais retirer la carte SIM, ça n'est pas banal. C'est la précaution ultime de quelqu'un qui ne veut pas qu'on sache où il était. Trois semaines après la mort de Cyril Boutin, les gendarmes placent Jean-Marc Arpoint, sa maman Ginette et Nathalie Boutin sur écoute. Et comme souvent, c'est très payant. Voilà ce que dit la mère à son fils Jean-Marc.
Jean-Marc, fais gaffe, hein. Fais gaffe qu'ils te mettent pas un émetteur. Si tu parles, ils sauront tout.
Mais il y a mieux que ça. Un jour, la mère dit à son fils...
Le fusil, C'est bon, on l'a fait disparaître.
Cet enregistrement est très intéressant parce qu'il dit deux choses. Un, c'est Jean-Marc Arboin qui a tué Cyril Boutin. Deux, sa mère Ginette est sa complice. Elle l'a aidé à se débarrasser de l'arme du crime. Et donc un mois après l'assassinat de Cyril Boutin, le trio femme, amant et maman de l'amant est placé en garde à vue. Au début, Jean-Marc reste sur ses mensonges.
Je vous dis qu'avec Nathalie, on est amis, rien de plus.
Alors les gendarmes sortent leurs biscuits. Et les SMS que vous envoie Madame Boutin, vous trouvez que ce sont des messages qui s'envoient entre amis? Et la première reculade de Jean-Marc.
Bon. Oui, c'est vrai. Nathalie est ma maîtresse.
On y est. Les gendarmes peuvent passer à la suite.
Monsieur Arboin, quand votre mère vous dit au téléphone qu'elle fait disparaître le fusil, vous pouvez nous expliquer de quel fusil elle parle?
Il est coincé. Et donc il craque.
Bon, c'est vrai. C'est moi qui ai tiré sur Cyril. Mais c'est parce qu'il me menaçait. C'est de la légitime défense.
Allez-y, développez.
Je suis parti à la chasse avec Cyril. Et puis à un moment, Cyril a pointé son fusil sur moi en me disant qu'il savait que je couchais avec sa femme.
Et que s'est-il passé?
Il allait me tirer dessus. J'ai eu peur. L'adrénaline est montée. Et voilà, j'ai appuyé un peu plus fort sur la gâchette. Et les coups sont partis.
Mouais. Ça ne colle pas du tout, vous notez, avec les constatations faites sur le corps. Ça, c'est une scène qui se joue face à face. Or, on a tiré sur Cyril Boutin dans le dos. Ça ne tient pas. En garde à vue, les heures passent. Et au bout de 24 heures, Jean-Marc Arboin lâche une petite bombe.
Il n'y avait pas que moi et Cyril ce jour-là dans la forêt. Nathalie était avec nous.
Madame Boutin était avec vous.
Ouais. On a mangé à la ferme. Et quand le repas s'est terminé, Cyril nous a embarqués à la chasse tous les deux.
Et alors, que s'est-il passé?
C'est elle qui a mis le fusil dans mes mains.
Armée?
Oui, armée. Cyril était devant. Moi, je suivais. Nathalie était derrière moi. À un moment, on est arrivé à un endroit propice. On était loin de toute maison. Elle m'a fait signe, genre, vas-y. J'ai tiré un premier coup et puis trois autres. J'ai voulu éviter qu'il souffre. C'est pour ça que je l'ai achevé.
C'est elle qui vous donne le signal.
Oui, c'est elle qui m'a demandé de faire ça. Je l'ai fait pour elle.
Et ensuite, ils sont rentrés à la ferme des Renardières où le fiston Hervé finissait sa sieste. Et après, Jean-Marc Arboin est bien allé chez sa mère. Et il lui a tout raconté. Enfin, il lui a dit que c'était de la légitime défense. Et donc la maman a accepté de lui servir d'alibi et de l'aider à se débarrasser du fusil. Vous savez où ils l'ont mis? Ils l'ont enterré dans le jardin de la maman. Et dans la nuit, on apprend que Nathalie se réveille en sursaut. Zut! On a oublié les cartouches sur place, les étuis des quatre cartouches tirées avec son fusil. Et donc de bon matin, elle retourne sur les lieux du crime, elle récupère les étuis. Et là, elle appelle les pompiers et elle fait semblant d'avoir découvert le cadavre. Elle fait son cinéma. Il nous reste à entendre son explication à elle. Dans ce genre de crime passionnel, il est toujours intéressant de savoir pourquoi cette femme a préféré faire tuer son mari plutôt que de divorcer.
Madame, Monsieur Arboin, garde à vue, viennent de reconnaître qu'il a tué votre mari. Et il dit que c'est vous qui lui avez donné le signal. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Et d'abord, étiez-vous présente cet après-midi de chasse, madame?
Oui. Oui, j'étais à la chasse avec eux. Et c'est moi qui ai aidé à Jean-Marc de tirer.
Pour quelle raison, madame?
Depuis son licenciement, mon mari était devenu très violent. Il me forçait à avoir des relations sexuelles. Il s'en prenait à notre fils. Je vous le dis, j'ai pensé à me suicider. J'en avais marre de la vie.
Vous aviez la possibilité de partir, madame. De quitter votre mari, de divorcer.
Je pouvais pas partir. Il m'aurait retrouvé. Il m'aurait tué, j'en suis sûr. Il n'y avait pas d'issue.
Les deux tourtereaux sont mis en examen pour assassinat et écroués.
Et les voilà donc tous les deux dans le box des accusés de la cour d'assises de Gironde le 9 décembre 2013. Lui dit qu'il a agi pour sauver Nathalie des griffes d'un mari violent. Il n'est pas loin de dire qu'il est un bienfaiteur. Et elle, assez vite, apparaît comme une femme froide, calculatrice. Une femme qui a utilisé son amant pour tuer son mari. L'avocate générale lui demande
« Vous envisagez, madame, un avenir avec Monsieur Arbouin ?»«
Non, je n'envisage aucun avenir avec lui. Je l'aime pas. Je l'ai jamais aimé. »
Très mauvais, ça. Très mauvais pour elle. Et puis on essaye de répondre à la question « Pourquoi le tuer plutôt que de divorcer ?» Et là, on découvre comme souvent, comme toujours, un mobile bassement financier. S'ils avaient divorcé, Cyril, qui avait rénové la ferme avec ses mains, était fondé à réclamer sa part. Et elle, c'était la ferme de ses parents. Elle ne voulait pas lui donner sa part. Et c'est pour ça qu'il le tue pour 3 sous. Évidemment, on se demande s'il est vrai qu'elle était battue. Elle dit qu'il était violent avec elle. Eh bien, personne, pas un témoin, ne vient confirmer ça. Elle l'a tué parce qu'il était devenu un poids, parce qu'il ne rapportait plus d'argent à la maison, parce qu'il coûtait plus qu'il ne rapportait. Voilà ce qui ressort des débats. Et quand le verdict tombe, Jean-Marc Arbouin, qui a tiré, est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, et elle, Nathalie Boutin, est condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Ils font appel tous les deux. Très mauvaise idée. Au second procès, Nathalie Boutin apparaît encore plus manipulatrice, encore plus machiavélique. Et elle prend 7 ans de plus, 25 ans de réclusion criminelle, alors que lui prend la même peine, 30 ans. Le verdict les met quasiment à égalité.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Voilà donc pour cette histoire que nous allons débriefer maintenant avec l'avocate générale qui a porté l'accusation aux deux procès, qui s'appelle Dominique Auflac et dont je signale le dernier livre qui est un roman, La cabane en bois, qui paraît aux éditions du Bord de l'eau. Vous êtes là, madame Auflac?
Tout à fait, monsieur Ondelatte, oui.
Un premier commentaire sur le verdict. Est-ce que vous vous souvenez de vos réquisitions au premier et au deuxième procès? Est-ce que vous les mettez à égalité ou quasi-égalité tous les deux?
Alors, les réquisitions, cher monsieur, ont été pour les deux de 25 à 30 ans de réclusion criminelle. Je rappelle pour mémoire que lui était renvoyé pour assassinat, elle pour complicité d'assassinat, puisqu'elle avait fourni, comme vous l'avez dit, l'arme qui a servi à tuer la victime. Alors, évidemment, les jurés font toujours un distinguo entre l'auteur matériel d'un crime Et l'égérie, la tête, celle évidemment qui a inspiré le crime mais qui ne l'a pas commis. Et je le regrette, et je le regrette. Parce qu'à mon avis, c'est elle qui a induit cet acte criminel, c'est elle qui y a pensé, c'est elle qui a entraîné Jean-Marc Arbois dans cette aventure absolument folle, et c'est elle qui, à mon sens, aurait dû prendre également 30 ans de réclusion criminelle.
Dans votre esprit, ils sont à égalité, lui qui tire et elle qui, en quelque sorte, remonte la pendule, quoi.
Absolument, absolument. Alors, elle est la tête, il est le bras armé, peu importe, si vous voulez. Bon, la tête, à mon avis, c'est la tête pensante. C'est elle qui l'a, par ses plaintes continuelles à l'encontre de son mari, par ses menaces de suicide, c'est elle qui l'a complètement entraîné. Et elle, à mon avis, dans mon esprit d'avocat général, je pense qu'elle est plus responsable que lui de ses faits.
Qu'est-ce qui se passe entre le premier et le deuxième procès? C'est intéressant, c'est assez rare qu'une avocate générale fasse les deux procès, mais ça n'est absolument pas interdit. Hein. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que le verdict est différent, qu'il est plus lourd la deuxième fois?
Il passe en appel devant la cour d'assises d'Angoulême. Angoulême, c'est différent de Bordeaux. Angoulême, ce sont des terriens, ce sont des cultivateurs, ce sont des gens qui ressemblent à Nathalie Salle, ce sont des gens qui n'admettent pas qu'au sein de la terre qu'ils préservent, qu'ils adorent et qu'ils cultivent, quelqu'un comme Nathalie Salle puisse commettre un acte aussi monstrueux. Et les jurés se sont identifiés, à mon sens, à Nathalie Salle, à cette ferme isolée. Et ils ont été beaucoup plus sévères parce que c'est la terre qui les intéresse et la préservation de la terre.
Et elle, on dit qu'elle était encore plus froide, encore plus calculatrice au deuxième procès qu'au premier. C'est ce que vous avez
ressenti? Aucun visage. Un visage anonyme, un visage hermétique, un visage fermé. Une femme mature d'une quarantaine d'années, à la mise extrêmement négligée, sans phare, la silhouette empâtée, les cheveux mi-longs. On a du mal à imaginer une quelconque passion, qu'elle ait pu aspirer une quelconque passion.
Et lui, Jean-Marc Arbouin, à quoi ressemble-t-il? Est-ce que c'est le cocu de l'histoire, le brave type à qui on fait croire qu'on l'aime? Et qui n'est que le bras armé d'un projet dont il ne perçoit
exactement,
rien.
Exactement, monsieur Andal, vous avez tout compris, absolument. Jean-Marc Arbois, c'est vraiment le pauvre type. C'est le type qui la regarde, alors qu'il sort, quand il passe évidemment Angoulême en appel, c'est le type qui la regarde tout au long du procès avec des yeux de chien battu, avec un air de dire « mais je t'aime, mais je t'ai toujours aimé ». Et elle est là, elle lui jette même pas un regard, rien. Rien. Alors qu'elle n'a pas vu pendant 4 ans de détention provisoire.
Et elle dit publiquement, je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais aimé. Est-ce que ça veut dire qu'elle l'a choisi uniquement pour être le bras armé de son funeste projet?
Je pense, oui.
Vous allez jusque-là?
Oui, tout à fait, oui. Tout à fait.
Mais ça n'est pas elle qui le fait venir dans la ferme. Je trouve que c'est une scène assez touchante. C'est Cyril Boutin qui croit que c'est un bon ami, qui le fait venir, qui l'héberge, qui le laisse installer sa cabane.
Oui, mais Jean-Marc, si vous voulez, il arrive dans la ferme parce que le fils de la famille, enfin, du couple, Hervé, vit avec Priscilla, avec sa fille. Bon, ils ont d'ailleurs un enfant ensemble. Bon, Jean-Marc, il arrive dans la ferme parce qu'il veut voir dans quelles conditions sa fille vit, etc. Priscilla, encore une fois. Et peu à peu, si vous voulez, il est attiré au sein du couple. Une amitié née entre lui-même et la victime. La victime, d'ailleurs, le sauve d'une tentative de suicide par pendaison. Parce que il faut dire quand même que Jean-Marc Arbois est quand même un délinquant. Jean-Marc Arbois a agressé sexuellement la fille de son ex-compagne. Il est placé à un moment donné sous bracelet électronique par la justice. Et donc, Jean-Marc est sauvé par Cyril Boutin. Cyril Boutin, c'est ce qu'il dit, redonne goût à la vie. C'est pour ça que le plan monté par Nathalie Salé de tuer le mari dès septembre 2009 est monstrueux. Parce que Jean-Marc et Cyril, c'est deux copains, tout à fait, tout à fait.
C'est-à-dire qu'elle instrumentalise un copain de son mari pour le remonter jusqu'à ce qu'il le tue, quoi.
Absolument. Tout à fait.
J'en viens à Madame Auflac à cette question éternelle. Pourquoi tuer alors qu'il est si simple de divorcer? Est-ce que vous avez la réponse à cette question dans ce dossier?
Je pense, Monsieur Ondelat, avoir le même point de vue que vous, parce que votre point de vue est extrêmement juste. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'effectivement, il y avait la ferme. Rappelez-vous du livre de François Mauriac, Thérèse Escléroux, Rappelez-vous ce que c'est qu'en Gironde, les pas, la terre, la valeur de la terre. Alors, la ferme, c'est ça le problème. La ferme, vous l'avez rappelé tout à l'heure, fort justement, la ferme dans laquelle Cyril Boutin s'est investi, a fait des travaux, a mis de l'argent, notamment de l'argent qui lui appartenait puisque c'était un capital invalidité. Le divorce, si vous voulez, c'est le morcellement de la ferme. Elle ne veut pas, lui non plus. Bon, lui, il veut sa part de la ferme, elle ne veut pas. C'est la ferme de ses parents, c'est la ferme de ses grands-parents, c'est ce qu'on rencontre fort souvent en Gironde, c'est-à-dire l'attachement à la propriété terrienne. Bon, alors il y a ça, et il y a le fait, et effectivement, bon, qu'elle commençait à se lasser de ce mari qui avait sans arrêt mal au dos, de ce mari qui ne touchait qu'une faible pension d'invalidité, de ce mari qui était incapable de travailler, de ce mari qui passait son temps à la chasse, de ce mari qui se plaignait sans arrêt de ses douleurs dorsales et qui en devenait agressif de temps en temps. Bon, alors, elle dit qu'elle a été violée par lui parfait, elle dit qu'elle a été frappée par lui parfait, mais bon, encore faudrait-il que ce pauvre homme ait pu avoir quand même la volonté de violer une femme dans l'état où il était, parce qu'il souffrait énormément. Bon, alors ça le rendait, certes, très morose, mais elle était pressée, en fait, quelque part, de se débarrasser de lui parce qu'il ne rapportait plus rien. Voilà, c'est clair.
Mais est-ce que Jean-Marc Arbois lui aurait rapporté plus ? Non.
Non, mais Jean-Marc Arbois, elle s'en serait débarrassée comme de Cyril Boutin, c'est pareil. Bon, Jean-Marc Arbois, il a fait que passer dans sa vie, vous savez. Jean-Marc Arbois, c'était le délinquant à qui on fait appel parce qu'il a commis des actes de délinquance et qu'il peut en commettre d'autres. Voilà, c'est tout.
Est-ce que vous vous souvenez, Madame Auflac, de la position des enfants qui est évidemment cornélienne dans cette histoire?
Oui,
c'est c'est leur père.
Alors, Priscilla est handicapée mentale. Bon, voilà. Priscilla a d'ailleurs touché une pension d'invalidité comme son père. Quant à Hervé, très remonté contre sa mère, aimant son père, et affirmant à l'audience que jamais, jamais, son père n'avait violenté sa mère. Jamais.
Est-ce que vous avez noté qu'ils avaient l'impression d'avoir commis le crime parfait? Parce qu'il y a deux séquences qui sont très intéressantes. Lui éteint son portable et retire la carte SIM, ce qui est la précaution ultime de celui qui ne veut pas être sur les smartphones. Le maintien de la carte SIM suffit à géolocaliser le smartphone. Il le sait, il prend cette précaution et elle va chercher au petit matin les étuis des cartouches qui ont servi à le tuer. Donc ce sont deux personnes qui prennent des précautions qui sans doute ont vu des séries américaines, mais qui ont oublié néanmoins qu'il reste la trace des SMS qu'ils ont échangés. Mais ils avaient l'impression d'avoir commis le crime parfait.
Oui, mais monsieur Onnet, quand on est parquetière comme moi, on note quand même un certain nombre d'erreurs commises par le couple, d'erreurs matérielles, dans ce dossier. Et je m'explique. La première erreur, c'est la position du fusil. Quand les gendarmes arrivent près du corps, les pompiers notent, et les gendarmes, que le fusil a été bougé, le corps également. Le fusil est posé à la perpendiculaire sur le côté gauche du corps. Il manque également deux cartouches sur la partie visible de la cartouchière sur le mort. Et à l'examen médico-légal, il n'est plus question d'accident, puisque le légiste note 5 impacts de projectiles de fusil de chasse, un fusil semi-automatique à 3 coups, dont 3 sont antémortem avant la mort, au niveau du thorax, et 2 sont post-mortem, dont 1 à bout touchant au niveau de la boîte crânienne. Ça veut dire que l'intéressé a été achevé après sa mort. D'ailleurs, Jean-Marc Arbois le dit très bien, il a eu des trémulations du corps, comme c'est souvent le cas lorsque la mort intervient. C'est-à-dire le corps a bougé et Jean-Marc Arbois a pensé que l'intéressé était encore vivant. Donc il achève comme on achève une bête. C'est carrément ça. Il tire à bout touchant. Le fusil est posé au niveau de la boîte crânienne et il tire alors que l'autre est déjà mort. C'est abominable. Abominable.
La mère Ginette, elle fournit un alibi. Elle planque l'arme dans son jardin. On est un peu
avec son compagnon qui était à l'audience également, en premier instant.
On est un peu surpris de ne pas les retrouver sur le banc des accusés.
Oui.
Parce que c'est de la complicité, ça. Elle sait qu'avec cette arme, il a tué. Et pourtant, elle planque l'arme dans son jardin avec son compagnon et elle lui fournit un alibi.
Oui, mais enfin, son fils raconte quand même des histoires. Son fils lui dit « J'ai été obligé de tirer parce que l'autre voulait me tuer parce que j'étais l'amant de sa femme. » Bon, voilà. Donc,
matière à la poursuivre.
Elle était poursuivie, ainsi qu'en première instance, ainsi que son compagnon, qui a aidé à enterrer le fusil, et ainsi qu'un voisin qui a dissimulé la cartouchière.
Mais ils n'ont pas été condamnés ?
Si, ils ont été condamnés avec du sursis, si vous voulez, parce que bon, on a estimé vraisemblablement qu'ils ont été abusés par Jean-Marc Arbouin, qui leur racontait qu'il était poursuivi par l'autre, que l'autre avait tenté de le tuer, donc il était en état de légitime défense. Voilà ce qu'a dit Jean-Marc Arbouin à sa mère.
Vous avez, Madame Auflac, une longue expérience d'avocate générale.
40 ans, cher monsieur, oui.
Voilà, que vous avez défendu devant plusieurs cours d'assises.
Absolument.
En France. Est-ce que le crime passionnel vous intéresse ? Plus ou moins que le reste ?
J'ai beaucoup de mal, monsieur Andelatte, à concevoir le crime passionnel. Parce que la passion, c'est pas tuer. La passion, c'est aimer. C'est pas pareil. Le crime passionnel, si vous voulez, bénéficie, curieusement, de toutes les indulgences. Bon, voilà. On est sensible au crime passionnel. Pourquoi ? Parce qu'on pense que le passage à l'acte criminel provient d'une fulgurance de l'esprit, que quand on est en état de passion, effectivement, on n'a plus de raison. Mais j'ai beaucoup de mal à le concevoir. Pour moi, il n'y a pas de crime passionnel.
Mais c'est le crime auquel on s'identifie le plus. C'est celui qui nous fait toujours poser cette question. Et moi, est-ce que j'en serais capable ?
Oui, mais vous savez, monsieur Andelatte, 40 ans de cour d'assises, et quelque part, on se dit, tout le monde peut commettre un crime. Personne n'est à l'abri.
Même vous, madame ?
Pourquoi pas ?
Ça sera le mot de la
Pourquoi
fin.
Pourquoi pas ?
Merci.
Chez moi, ce serait un crime véritablement passionnel, cher monsieur.
Et véritablement,
je vous rassure.
Et véritablement parfait, sans doute. Avec votre expérience du parquet.
Parfait. Vous savez, il n'y a pas de crime parfait. Hein. Quand on creuse bien les choses, il n'y a pas d'innocent. Hein. Rassurez-vous. Même s'ils apparaissent à l'audience tous comme des victimes, il n'y a pas d'innocent. Ce sera quand même, au bout de 40 ans de cour d'assises, ma conclusion.
Madame Auflac a écrit La cabane en bois aux éditions de Bordelot. C'est un roman, c'est son dernier livre. Merci beaucoup, madame, d'avoir débriefé cette histoire avec nous aujourd'hui. Demain, je serai là à 2h pour vous raconter une autre histoire. Salut.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.